8h32 dans les promesses de l'aube.
8h32, 10 février, les promesses de l'aube.
On est de retour sur antenne avec notre invité qui vient de nous rejoindre en studio. Paul, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on t'entend bien ?
Moi, je t'entends. Oui, pas très fort, mais je t'entends quand même.
Voilà, on va prendre le temps de régler ça tranquillement.
Oui, voilà, c'est
voilà.
Mieux. C'est mieux.
Okay. C'est tout de suite mieux. Alors, Paul, tu fais partie du gang des vieux en colère.
Oui, exactement.
Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, toi et le gang ?
Oui, bien sûr. Bon, en ce qui me concerne, donc, mon nom est Paul Bouisseret. J'ai 73 ans. Et j'ai rejoint le gang des vieux en colère l'année dernière, au mois de juillet, le 3 juillet pour être précis, porteur d'un projet contre les nouvelles mesures qui ont pris cours le 1er juillet de l'année dernière, suite à un arrêté royal qui date déjà du mois de mars 2018. Et pour porter ce projet, je me suis dit qu'avoir le soutien du gang des vieux en colère, qui était déjà une organisation qui se battait pour la préservation des pensions, que c'était une bonne chose. Donc, ayant rejoint le gang, j'ai commencé à publier sur la page Facebook du gang, et très rapidement, j'ai été invité à venir à Bruxelles, à rejoindre le comité exécutif du gang. Et je me suis vu chargé, évidemment, de ce dossier Grappa, puisque je l'avais amené avec moi. Et donc, depuis ce temps-là, je m'occupe exclusivement de ce dossier. Enfin, quand je dis exclusivement, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai aussi la charge du développement et de la coordination pour les provinces de Liège-Luxembourg, ce qui est aussi un gros boulot.
Vous ne vous ennuyez pas. Hein.
Comment ?
Tu ne t'ennuies pas.
Je ne m'ennuie pas, non.
pour les auditeurs, vite fait, donc le Grappa, c'est...
Alors, pour bien expliquer ce qu'est la Grappa, c'est un acronyme, en réalité, qui s'écrit avec un P et non pas deux P, parce que sinon, on risque d'avoir un verre dans le nez. Donc, Grappa, c'est la garantie de revenus aux personnes âgées. En quoi ça consiste ? Quand vous arrivez à l'âge de la pension... La tour du midi, donc l'office des pensions, le SF, donc le service fédéral pension, va regarder le montant de pension auquel vous avez droit. Et si vous êtes en dessous du seuil de pauvreté, automatiquement, on vous alloue un complément qui s'appelle la Grappa. Précédemment, il fallait la demander. Maintenant, c'est automatique. Mais il existe encore toujours un certain nombre de personnes qui, étant dans l'ancien régime, n'avaient pas demandé la Grappa et donc éventuellement ont une pension inférieure au seuil de pauvreté.
Oui, c'est automatique pour les nouvelles personnes.
Pour les nouvelles personnes, c'est automatique. C'est automatique. Moi-même, je suis bénéficiaire de la Grappa et pour ne rien cacher, je bénéficie d'une retraite de 1220 euros par mois.
Mais ça permet juste de monter au seuil de pauvreté.
On est juste un peu au-dessus du seuil de pauvreté, de l'ordre de 50-60 euros. Alors, c'est évidemment une somme qui est très faible. Pour ce qui me concerne, je m'en sors assez bien parce que, habitant Liège, j'ai trouvé en plein centre-ville un petit appartement pas cher. Et donc, le fait d'avoir un appartement pas cher me permet quand même de faire quelques économies d'échelle, je dirais, par rapport aux autres appartements qui sont dans le voisinage. Il y a une différence d'à peu près 150 euros par mois, ce qui est appréciable quand même.
Oui, c'est énorme.
Voilà, c'est énorme. Alors, quel est le problème maintenant avec la Grappa ? C'est que, donc, avec ce nouvel arrêté royal dont je parlais il y a un instant, qui a été pris en mars 2018 et entré en application à partir du 1er juillet 2019, on a toute une série de nouvelles mesures en termes de contrôle, notamment, et en termes de limitation de déplacement. C'est-à-dire qu'avant, il existait déjà une limitation de déplacement qui était de l'ordre de 29 jours par an.
Quand tu dis déplacement, ça veut dire quitter le territoire
Alors, qu'est-ce que c'est ? ça veut dire quitter le territoire, mais la notion s'étend actuellement, avec la nouvelle loi, enfin le nouvel arrêté royal, cette notion s'étend également à la Belgique. Je vais expliquer ça dans un instant. Donc précédemment, il y avait déjà ce délai de 29 jours, mais les contrôles étaient aléatoires, si bien que moi je suis retraité depuis 8 ans maintenant, je n'avais jamais eu de contrôle. Le début juillet, je commence à publier sur la page Facebook du Gang des Vieux en Colère. Et bizarrement, vers le 15 juillet, 15-20 juillet, je ne me souviens plus exactement, je ramasse un contrôle grappa.
Bah ouais, c'est quand même fou.
Vraisemblablement, ils ont vu quelque chose, ou alors c'est un hasard, mais j'y crois pas trop. donc voilà. Heureusement, j'étais là. J'ai vu le facteur qui était très ennuyé, évidemment, de venir apporter ce document de contrôle. Parce qu'en fait, voilà le problème. C'est que, enfin, une partie du problème, c'est qu'en fait, ces contrôles, suite à un accord qui a été pris avec le Service fédéral pension et Bipost, ce sont les facteurs qui apportent un document. Ils se présentent trois fois. Si vous êtes là une des deux premières fois, il vous montre le document comme si c'était un recommandé. Vous signez sur son petit appareil, vous êtes en ordre, il n'y a plus rien à faire. Si par hasard, vous n'êtes pas là, vous êtes parti faire des courses, vous n'avez pas entendu la sonnette, vous êtes trop âgé, vous n'avez pas le temps de descendre parce que vous habitez au 8e étage et que...
Oui, bon, enfin, parce que...
Voilà, vous ne voyez pas le facteur. Le facteur a 67 secondes.
Il y a aussi une grosse pression sur les facteurs qui ne peuvent pas attendre.
Ils ne peuvent pas attendre. Ils sont tenus par leur tournée. Ils ont un délai de 67 secondes. Et puis, oups, ils s'en vont. Donc, vous pouvez très bien rater le facteur assez facilement, surtout quand vous êtes âgé et avec une mobilité un peu réduite.
Oui, et déjà, en règle générale, enfin, 67 secondes, c'est vraiment ridicule.
Oh, oui, mais c'est très peu, effectivement. Hein. Bon, on est d'accord. Alors, si vous ratez donc le facteur deux fois de suite, à la troisième fois, il va vous laisser un document que vous devez faire remplir par la commune et renvoyer au Service fédéral des pensions dans un délai de 5 jours, ce qui est très court. Mmh. Nous avons des cas de personnes où, par exemple, j'en ai une ici à Bruxelles que j'ai rencontrée personnellement d'ailleurs, cette dame avait une carte d'identité qui n'était plus à jour. Donc quand le facteur s'est présenté, elle a vu le facteur, elle lui a donné sa carte d'identité, mais sa carte d'identité n'étant pas à jour, ça n'a pas pu se faire. Résultat, le temps de mettre sa carte d'identité à jour, délai de 5 jours était dépassé, on lui a supprimé sa grappa pour un mois.
C'est quand même une punition. En fait,
c'est une punition, effectivement. Effectivement, c'est une punition. Alors, nous, notre position a été dès le début de dire, oui, mais, oh, stop, les facteurs, ce sont des facteurs, ce sont des gens qui ne sont pas assermentés. Ils ne sont pas qualifiés pour ce genre de choses. En plus, il y a un problème de respect de la vie privée, parce que le facteur n'a pas à savoir, finalement, si vous êtes bénéficiaire de la grappa ou pas. C'est quelque chose de privé, ça, ça relève.
Tout à fait. Puis alors, j'ai une question, parce que, du coup, bon, chacun fait sa vie, chez lui, pas chez lui, enfin, voilà. Mais ça veut dire que, lorsque vous avez un contrôle, ça signifie que il faut être chez soi tout le temps. Enfin... Je comprends pas.
Effectivement.
On est assigné à résidence, qu'est-ce qui se passe?
C'est exactement le terme que nous employons. Nous disons que nous sommes assignés à résidence et que c'est un peu comme si on nous imposait un bracelet électronique. Parce que on constate que beaucoup de nos adhérents nous disent, ben, on n'ose plus sortir de chez nous tant que le facteur n'est pas passé. Donc, aller faire ses courses, à la limite, aller aux toilettes. On n'ose plus, parce qu'on ne sait jamais.
On n'a pas 67 secondes.
Voilà, ouais. Exactement. Et donc, ça crée un stress au niveau de la population. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible, parce que le ministre des Pensions, quand même, M. Baclène, c'est un médecin. Il doit connaître, il doit savoir ce que peuvent être les conséquences du stress engendré chez des personnes qui sont déjà fragilisées au départ. Ça peut induire un tas de pathologies, et c'est absolument inacceptable d'imposer ça aux gens. Totalement inacceptable. Bien, ceci étant, suite aux actions que j'ai entreprises depuis le début juillet, j'ai notamment pris contact avec la Ligue des droits humains.
Qui a fait une large diffusion.
Voilà. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'évidemment, moi j'ai eu mon premier contact avec la Ligue des droits humains le 3 juillet par téléphone. Je leur ai envoyé ensuite un mail. C'était la période de vacances. En septembre, ils ont analysé tous les mails qu'ils avaient reçus, etc. Début octobre, on a eu une première réunion de travail. La Ligue des droits humains a très très bien travaillé. Ils ont rameuté toutes les organisations qu'ils connaissaient et avec lesquelles ils sont en contact, etc., y compris les syndicats. Et nous organisons ici le 17 février, à 10h du matin, nous avons une manifestation devant le cabinet du ministre. Nous rencontrerons le ministre ou, à tout le moins, un de ses délégués pour lui remettre des documents de doléances, de propositions, etc. Parce que on ne peut pas accepter ce genre de choses. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est... Oui, je vais revenir quand même un peu sur la question des déplacements. Mmh. Donc... nous avons maximum 29 jours pour pouvoir nous déplacer éventuellement à l'étranger, mais également en Belgique. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai ma fille qui habite ici à Bruxelles. Comme notre rendez-vous était fixé tôt ce matin et que, bénéficiant de la grappa, je ne peux pas prendre le train avant 9h du matin, ma fille habitant ici à Bruxelles, je suis venu loger chez elle hier soir de façon à être suffisamment tôt ici à la station. Nous avons maintenant également ce délai de 29 jours pour des déplacements en Belgique. La justification du ministre est de dire « On doit pouvoir savoir où vous êtes, de manière à ce que si un contrôle pour vous tombe dans cette période-là, on vous le fasse suivre là où vous vous trouvez. »
Mais alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument savoir où vous êtes ?
Ah ben voilà, effectivement. Alors on peut se poser les questions. On peut se poser des questions, de se demander finalement dans quel régime vivons-nous. Quand nous entendons le brillant Georges-Louis Boucher, récent président du mouvement réformateur, bouillonnant d'ailleurs, mais pas toujours très réfléchi, qui a osé dire qu'une des solutions possibles pour le problème des pensions, puisqu'en fait le problème c'est comment payer les pensions, selon lui, une des solutions possibles était tout simplement l'euthanasie. Et moi, je me suis tout de suite posé la question, mais c'est un argument que je n'ose pas trop utiliser parce que ça peut être très polémique. Je me suis tout de suite posé la question, je me suis dit, mais tiens, au fond, la société Bayer est établie ici en Belgique. Est-ce qu'il n'envisagerait pas de demander à Bayer de remettre en production le gaz Zyklon B ? Ah, là, évidemment, ça fait un tollé. Quand j'ai proposé ça en comité, on m'a dit « Oui, touche pas à ça ». Oui, d'accord. Je sais, il faut pas toucher à ça. C'est un domaine sacré. Mais bon, on se pose la question quand même. Ouais. Alors, moi, je dis aussi, et c'est une des choses que je dirais au ministre si j'ai l'occasion de le rencontrer, je dirais « Monsieur le ministre, un peu plutôt que de nous pourchasser, essayez de nous mettre des étoiles dans les yeux, pas sur la poitrine, s'il vous plaît. Ouais. » Bon, voilà.
Alors, ce que je propose, avant qu'on revienne à tout ça, c'est une très très courte pause musicale.
Oui, d'accord.
Si ça veut bien, encore une fois. Mais oui, ça me fait des blagues à chaque fois, ce truc.
Ah, sinon, voilà. Je peux chanter, si vous voulez.
Ah, oui, là, vous pouvez. Hein.
Hey, le facteur n'est pas passé. Passera jamais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fermez les petits pois, le facteur est passé. Ouvrez les petits pois, courez. Pas passé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Voilà.
Pourquoi on en joue pour eux
voilà, c'était très court, en effet.
Ouais, non, voilà. C'était vraiment pour eux.
Voilà. Juste un petit bon facteur, d'accord.
Je suis contente de ma bêtise. Voilà.
Oui, mais donc, on redisait ce truc de l'idée même de contrôle. Je la trouve hallucinante. Enfin, on a ça toute la vie pour le chômage, tout ça.
C'est
ça. T'espérais pouvoir en sortir.
Et qu'on te foute la paix.
Et qu'on te foute un peu la paix, et non.
Voilà. Effectivement, ce problème de contrôle est un problème qui est un peu hallucinant, quelque part. Parce que l'on impose un contrôle aux gens qui sont au chômage, et qui sont donc susceptibles, quelque part, d'être à la recherche d'un emploi. On contrôle d'ailleurs s'ils sont à la recherche d'un emploi actuellement, et s'ils ne sont pas suffisamment actifs à ce niveau-là, ils pourraient éventuellement être suspendus de leur chômage. qu'on empêche les gens qui sont au chômage de partir à l'étranger pour 3, 4, 5, 6 mois, c'est logique. Les gens qui sont au CPS, ben, ils sont finalement financés par leur commune. C'est un peu normal qu'ils dépensent l'argent qui leur est alloué par le CPS dans la commune.
L'argument pour les gens qui sont encore dans leur vie active, c'est vous devez être dans une recherche active d'emploi.
Voilà.
Tout ça, et vous devez faire ça en méchant.
Voilà.
Mais justement, arriver à la pension, c'est plus la situation.
Alors précisément, nous qui sommes retraités, ben, on n'est plus dans les conditions de solliciter un emploi, bien entendu. Et la seule argumentation que l'on trouve, c'est de dire « oui, mais il y a eu des fraudes ». Alors, de fait, il y a eu d'abord un premier arrêté royal qui visait essentiellement les étrangers. Parce que les fraudes, c'était quoi ? C'était des gens qui avaient travaillé en Belgique pendant 3, 4, 5 ans. Ils bénéficiaient donc d'une petite pension en Belgique. Et ils demandaient un complément grappa. Une fois qu'ils l'avaient obtenu, ils rentraient chez eux et vivaient avec leur pension plus la grappa. Et là, on s'est dit « ça va pas ». Bon. Et donc, il y a eu un premier arrêté royal qui a été pris, qui visait donc toute cette catégorie d'étrangers, mais ça a été cassé par la Cour constitutionnelle parce que jugé discriminatoire. Du coup, on a repris un deuxième arrêté, l'actuel, qui incrimine tout le monde. Et là, on n'est pas d'accord, évidemment.
Parce mais même plus de contrôle, enfin, même ce contrôle de base est déjà ridicule, parce que j'ai une question. Est-ce que les pensionnés, du coup, qui ne bénéficient pas de la grappa sont contrôlés ? Non.
Non, du tout.
Voilà. Donc, il y a les gens libres et les gens moins libres.
Voilà, exactement.
Et la grappa est pour des gens qui ont eu un salaire moins élevé pendant toute leur vie. Enfin, bref, ouais, cet acharnement.
C'est juste interminable.
Exactement. Ça ne fait que prolonger le problème, en réalité. De surcroît, non seulement ces contrôles sont inquisiteurs et ne sont pas vraiment justifiés, mais en termes économiques purs, on se demande quelle est la rentabilité de cela. Parce que nous voyons par exemple qu'au niveau du service fédéral des pensions, ils n'ont pas le personnel en suffisance que pour traiter tous les dossiers pour lesquels ils lancent les procédures de contrôle. Résultat, il y a actuellement plus de 7000 dossiers qui sont en attente de décision. Il y a des décisions qui sont prises provisoirement de suspension de grappa et... Le service des pensions reconnaît lui-même que dans l'ensemble de ces dossiers, il y en a peut-être 20% qui méritent effectivement une suspension. Donc c'est un très faible pourcentage. Ça ne se justifie plus. Quand on voit le coût que cela représente en termes de personnel au niveau du service fédéral pension, le coût que ça représente dans le contrat qui a été passé avec Bipost.
Oui, parce qu'en plus, on sous-traite.
Bipost sous-traite, effectivement. Bon, vous me direz, c'est toujours l'État, plus ou moins, même si Bipost est partiellement privé. C'est de l'argent qui circule dans la caisse de l'État, ça passe d'un ministère à un autre, ok. C'est pas une vraie dépense, possible. Mais de toute façon, le rendement de ces mesures est certainement, malheureusement, on ne connaît pas les chiffres, mais à mon avis, il est certainement inférieur à son coût.
Oui, et surtout, tu parlais tout à l'heure des coûts de santé aussi, de vivre dans ce stress.
Ah mais évidemment, évidemment. Vous savez, c'est un peu la même chose je vais prendre une comparaison qui n'en est peut-être pas une, mais on vous dit, il faut arrêter de fumer, ça vous évite éventuellement de ramasser un cancer, donc pour la sécurité sociale, c'est bon, ça nous permet de faire des économies. Ici, on dit, on va vous stresser, donc vous allez ramasser des maladies, mais on ne dit pas, ça va coûter plus cher à la sécurité sociale. Or, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est complètement incohérent, leur truc. Alors, revenons à cette faculté de se déplacer. Je dis que c'est incohérent parce qu'on remarque que, selon les différentes catégories, les délais sont différents. Alors, la justification, donc, on en a déjà parlé un peu, mais c'est surtout aussi le fait que la grappa étant considérée comme une allocation sociale, on dit tout ce qui est allocation sociale peut être contrôlé en termes de présence. Bon, c'est un peu stupide. Mmh. Puis on nous dit, oui mais vous ne pouvez pas avoir une pension normale puisque vous n'avez pas travaillé toute votre vie, vous n'avez pas cotisé toute votre vie. À quoi je réponds, oula, on ne cotise pas pour soi-même. C'est un système de répartition, on cotise pour les gens qui vont venir à la pension. Donc, venir nous opposer que nous n'avons pas cotisé à titre personnel, c'est un argument qui ne tient pas la route. Voilà, on en est là. Alors, les disparités. Par exemple, quelqu'un qui est handicapé et qui bénéficie aussi d'une allocation d'handicapé peut s'absenter de la Belgique pendant 90 jours. Quelqu'un qui sort de prison, prenons le cas de Le Lièvre qui vient de sortir de prison, lui peut s'absenter de Belgique pendant 40 jours. Mais vous êtes pensionné, vous avez 29 jours. Alors, sommes-nous moins bien considérés que d'ex-détenus ou pas ? On peut se poser la question aussi.
Oui, mais d'autres fois, vraiment, les arguments donnés dans un sens ou l'autre pour justifier des durées sont tout à fait arbitraires.
Ils ne savent pas justifier. Ça a été pris à certains moments par des ministres dans des contextes différents. Il n'y a jamais personne qui s'est soucié de se pencher là-dessus et d'essayer d'harmoniser un peu les choses. Par contre, on se soucie et on voit très bien ce qui s'est passé avec le dernier gouvernement. C'est essayer de faire rentrer un maximum de pognon par tous les moyens possibles, mais surtout en ne touchant pas les riches.
Mais c'est racler les fonds de tiroir, parce que les pensions de grappa sont dérisoires, sont à peine pour atteindre le seuil de pauvreté.
Absolument, absolument.
Et c'est là qu'on irait chercher l'argent, Cyril.
Ben, écoutez, c'est pas très difficile. Hein. Lorsque vous regardez les statistiques, nous avons actuellement en Belgique 2 100 000 chômeurs, pensionnés, retraités. 2 100 000. Sur ces 2 100 000, il y en a actuellement, en 2018, c'était 104 000 personnes environ, 104 500. Actuellement, on estime à 105 000, 106 000 personnes. Donc il y a une petite augmentation, mais pas énorme. Si on estime la pension, le versement moyen de la GRAPA aux alentours de 300 euros sur 106 000 personnes, ça représente quoi ? En termes de budget, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Alors, est-ce que ça vaut la peine de mettre toute cette machinerie en branle pour contrôler un poste de budget qui est aussi faible, alors qu'il y en a d'autres qui mériteraient bien d'être contrôlés ? Je vais prendre un exemple.
Ben après, je me dis, pour moi, il n'y a même pas cette comparaison de il faut contrôler plus tel type de personne ou tel type de personne, parce que l'argument, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que à chaque fois on est toujours dans ce même argument, c'est la fraude. Enfin, oui. L'excuse de la fraude.
Oui, oui, oui.
Et puis on amène plus de contrôle un peu partout, puis arbitrairement, comme tu disais Fred aussi, on impose certaines choses, et finalement on divise aussi la population.
Bien entendu, on divise.
Et donc on monte un peu les catégories de personnes, puisqu'on les catégorise comme ça les uns contre les autres.
Tout à fait, absolument. Et c'est une constatation que nous avons faite aussi, et nous nous plaignons par rapport à cela. Maintenant, notre position au niveau du gang des vieux en colère, nous demandons une pension égale pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les femmes que les hommes. Il faut savoir que parmi le personnel, enfin les personnes qui bénéficient d'une GRAPA, 106 000 personnes, je dis à peu près, il y a 63 000 femmes. 63 ou 68 ? Une majorité de femmes. J'ai le cas, dans un des dossiers que nous avons reçus, d'une dame qui a travaillé toute sa vie avec son père, qui a été déclarée comme aidante. Et arrivé à la pension, quand l'office des pensions lui a signalé son montant de pension, tenez-vous bien, 17 euros par mois.
Oui, super.
17 euros. Mmh. Ben, on peut s'acheter deux sandwichs et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Ça, c'est la situation qui prévaut actuellement. Alors, nous, donc, au niveau des gangs des vieux en colère, nous préconisons une pension minimale de 1 600 euros pour tout le monde, hommes comme femmes. Calculé au 1er janvier 2019 et indexé sur l'indice bien-être, bien entendu, sur l'indice santé. Les syndicats, les partis politiques actuellement préconisent 1500 euros par mois. Mais les modalités d'un parti à l'autre sont très différentes. Certains parlent même de 1500 euros à partir de 2024. Si on actualise la somme de 1500 euros, ça représenterait exactement actuellement 1358 euros. On ne va nulle part avec ça. Ça augmente 100-150 euros par mois. C'est pas grand-chose. Et pourquoi demandons-nous 1600 euros ? Parce que tout simplement, nous avons constaté que c'est le prix minimal pour pouvoir accéder à un home pour vieilles personnes. 1 600 euros, c'est vraiment un minimum. Et encore, il ne faut pas viser le haut de gamme.
C'est déjà énorme, hein, en même temps.
Voilà, c'est déjà énorme, effectivement. Moi, je me souviens avoir connu une personne qui était dans un home à Liège, un home privé de haut de gamme. Elle payait 2 500 euros pour une chambre qui était à peine plus grande que le studio ici. Ce qui est énorme. Ben voilà, ça c'est la situation. Donc, on se bat par rapport à cela. Il faut voir aussi, depuis que nous avons mis la Ligue des droits de l'homme de notre côté et que nous travaillons ensemble, il y a tout un courant politique qui s'est développé. J'ai personnellement rencontré le député Vandenburg, qui a fait un travail remarquable d'ailleurs. Et finalement, ça a été publié ça le 17 janvier, le député Delizé du Parti Socialiste a réussi à obtenir de la commission de contrôle des données un avis disant que toute cette procédure avec les facteurs et autres était totalement illégale. Mais ce n'est qu'un avis, ce n'est pas contraignant. Ce qui veut dire que le ministre pourrait très bien ne pas en tenir compte ou modifier très légèrement son arrêt pour dire, ben voilà, on a changé et puis c'est très bien comme ça et on continue.
Et c'est reparti bon. Pour quelques années de...
Comment ?
Ils sont repartis pour quelques années.
Et ce serait reparti pour quelques années.
Ouais. On arrive en toute fin de cette émission déjà.
Oui.
On rappelle. Beaucoup à dire, vous rencontrez le Gang des Vieux en colère, vous rencontrez le ministre.
Le 17 février avec
le 17
une action.
Février, oui. Oui. Alors nous serons, en fait, le 17 février, nous réunissons une quarantaine d'associations et des syndicats. Et fait remarquable, nous avons le support d'associations néerlandophones.
Ok, ouais, donc c'est un mouvement
voilà.
Belge.
Donc c'est vraiment national. Et ça nous fait particulièrement plaisir parce que quand certains prétendent qu'il n'y a plus moyen de collaborer entre le Nord et le Sud, ben là, on voit qu'il y a effectivement moyen de collaborer entre gens de bonne composition, de gens intelligents qui peuvent s'entendre sur certains sujets. Il y a moyen de le faire.
Tout à fait. Donc, votre site web, c'est gangdesvieuxencolère.be. On mettra de toute façon toutes ces informations, on mettra le podcast en ligne.
Oui.
Et puis, comment on fait pour vous rejoindre ?
Alors, c'est assez simple. Notre site s'appelle évidemment gangdesvieuxencolère.be, sans accent sur colère, bien sûr, et le tout en un seul mot. Lorsque vous êtes sur ce site, vous êtes éventuellement invité à vous y inscrire. Et à ce moment-là, vous êtes inscrit sur la page Facebook publique, parce que nous avons une page Facebook privée, une page publique. Lorsque vous êtes inscrit sur la page publique, vous recevez toutes les informations du Gang des Vieux en colère. Chaque fois qu'on organise quelque chose, vous en êtes informé. Depuis peu, ça remonte à une quinzaine de jours à peu près, nous avons une page spécifique pour l'AGRAPA. Donc si vous êtes sur Facebook et vous voyez par exemple dans le coin supérieur gauche page publique Gang des Vieux en colère, si vous tapez... Avant cela, Grappa, vous allez accéder directement à la page spécifique pour la Grappa. Et cette page spécifique, je la gère personnellement.
Et puis, il faut savoir que le Gang des Vieux en colère se mobilise aussi sur bien d'autres sujets aussi.
Oui, bien entendu. Nous avons eu une manifestation dernièrement dans un home de qualité, heureusement. Et la direction de ce home a accepté que nous fassions une petite manifestation. On est en fait venu récompenser les vieux en leur offrant des cadeaux et des choses comme cela. On a fait des manifestations chez Deleuze, par exemple. C'était une manifestation contre les aspects fiscaux, les avantages fiscaux accordés aux grandes entreprises, etc. En fait, on constate qu'il y a de l'argent un peu partout qui pourrait être récupéré. Je vais prendre un exemple. Ici, dernièrement, j'ai vu ça dans la presse, c'est encore un autre scandale. Au ministère de la Défense, ils ont voulu reconditionner une centaine de véhicules qui étaient jugés un peu obsolètes par rapport aux besoins de l'armée. Ça a coûté plusieurs centaines de millions. Et une fois que les véhicules ont été restitués aux forces armées, on a constaté qu'ils n'étaient plus propres à l'utilisation parce que le personnel n'avait plus de place pour se positionner à l'intérieur des véhicules. Donc voilà une dépense stupide qui a été faite. Alors qu'on aurait pu utiliser cet argent, soit en prenant des précautions et en faisant des modifications des véhicules qui auraient été correctes, soit utiliser cet argent autre part.
Pour augmenter les pensions.
Voilà. Alors, une dernière chose, nous disons aussi...
Toute dernière.
Si on trouve de l'argent pour refinancer les banques quand elles ont escroqué tout le monde, si on trouve de l'argent pour acheter des F-35 dont tout le monde sait que cet avion ne vaut rien... on pourrait trouver un peu d'argent pour s'occuper des pensionnés.
Et bien d'autres choses encore, et oui, tout à fait. Voilà. Merci Paul.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
D'être venu jusqu'ici.
Ouais. On met tout ça en ligne et puis on se tient au courant pour la
D'accord.
suite.
Si vous mettez ça en ligne, vous pouvez aussi indiquer mon adresse personnelle. J'ai une adresse qui s'appelle paul@gagdesvieuxencolère.be, une autre qui s'appelle paul.buisseret@gmail.com.
Eh ben on mettra
tous les contacts sur le site, bien sûr.
Il n'y a pas de souci.
Vous pouvez les mettre, oui, absolument, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez même mettre mon numéro de téléphone.
Eh ben voilà.
Ouais. Bah
vous l'avez, hein.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Notre but est effectivement d'essayer d'attirer un maximum de personnes vers nous. Tout en sachant que beaucoup de personnes âgées n'ont pas les moyens électroniques. Certains n'ont pas de GSM, pas d'ordinateur, pas de tablette.
C'est là où c'est bien justement de mettre le numéro de téléphone, tout ça.
Oui, tout à fait.